France Inter. Le masque et la plume. Le sommaire du jour continue de défricher la copieuse rentrée littéraire de cet hiver, puisque cette année, 507 romans paraissent entre janvier et février, soit plus qu'en septembre dernier. Dans cet épisode, nous parlerons des livres de quatre autrices et un auteur, Pierre Lemaître, Leïla Slimani, Nathalie Azoulay, Jeanne Rivière, qui publie un premier roman, et l'italienne Milena Agus. Pour en débattre la voix claire et le teint frais, les présents sont Arnaud Vivian de la revue Regard, Patricia Martin de France Inter, Laurent Chalumeau, auteur, et Elisabeth Philippe du Nouvel Obs. Bonjour, des livres et des débats, c'est le programme de l'heure qui suit. Quelle tristesse, quelle déception! Quel ennui, m'écrit Sophie sur Instagram, me conseillant, entre parenthèses, de ne pas lire ce message en ouverture, afin de ne pas plomber l'ambiance, trop tard. Ennui, déception, tristesse, donc, pour La cité aux murs incertains, t'avais peur, Elisabeth, hein, de Haruki Murakami, qui n'avait pas provoqué grand enthousiasme à cette tribune. Je suis fidèle à cet auteur, précise Sophie, mais là, pour un roman qui compte 552 pages, j'ai fait l'effort d'en lire 304 et ressenti 2000. Hakim, sur Instagram toujours, pour les mails cette semaine, vous aviez vraisemblablement la tête ailleurs. Hakim, donc, revient sur L'hospitalité aux démons de Constantin Alexandrakis. Si le sujet des violences sexuelles et sexistes est enfin entré dans les livres, écrit cet auditeur, je crois qu'il est assez rare qu'un homme victime en soit le narrateur et au cœur d'un roman. Victime et soupçonné d'être à son tour agresseur. Par l'audace de son style, autant que par la puissance et la spirale infernale de son propos, ce livre me semble aussi important que Le consentement de Vanessa Springora ou Triste tigre de Neige Sino. Merci d'insister, et j'insiste ici de bonne grâce, L'hospitalité aux démons me semble effectivement un livre important. Laurence me signale l'information suivante. Les Français lisent de plus en plus de livres d'occasion. Un ouvrage sur cinq vendu est un livre d'occasion. À quand une appli Vinted pour la littérature, demande Laurence. Sans bibliothèque à proximité, lire devient cher aussi. Et enfin, le message de Philippe tient en trois mots. Vive Jean et Schnauz. J'ajoute que son roman Bristol vient de paraître aux éditions de Minuit. On commence avec « J'emporterai le feu » de Leïla Slimani, qui clôt sa trilogie inspirée de son histoire familiale entre la France et le Maroc. Après la colonisation et les lendemains de l'indépendance, ce troisième volet couvre les décennies 80, 90 et l'entrée dans le 21e siècle avec la troisième génération de femmes de la famille Bellage. Une génération d'émigration sans retour, qui a 20 ans lorsque le Maroc vit des années de plomb. Cette nouvelle génération est incarnée par Mia et Inès. Et ce choix de prénom français cristallise l'un des enjeux du livre. Leur père Mehdi est la troisième figure autour de laquelle s'articule le roman. Cet homme est moteur de lecture et d'écriture pour sa fille aînée, Mia, qui deviendra autrice. Accusée de corruption et enfermée dans les geôles d'Hassan II, Mehdi dit à sa fille, partie étudier à Paris, « Ne reviens pas, ces histoires de racines, ce n'est rien d'autre qu'une manière de te clouer au sol. » C'est un roman sur la question très contemporaine de l'identité, sur la transmission de la littérature et de son pouvoir, et toujours, chez Leïla Slimani, la sensualité et le corps. Elisabeth.
Oui, bah, tu l'as très bien présenté. On retrouve effectivement dans ce troisième volume toute l'efficacité de conteuse de Leïla Slimani, son savoir-faire, sa façon de faire entendre une pluralité de voix et même une pluralité de styles, et toujours avec une force de présence de ces personnages. Ils sont tous extrêmement bien caractérisés. Il y a Mehdi, le père, qui est toujours dans ses costumes italiens, qui fume cigarette sur cigarette, au point que un jour, quand il apprend à nager à Inès, il la met dans l'eau, et puis quand elle relève la tête, il voit qu'il est parti s'allumer une clope. Aïcha aussi, la mère, qui est gynécologue, gynécologue, on la suit dans son cabinet, on la suit dans ses consultations. Il y a aussi une scène d'accouchement. On est dans la salle d'accouchement avec les odeurs, la chaleur, les évanouissements des femmes. Enfin, c'est formidable. Et puis donc, au centre de ce livre, il y a aussi ces deux adolescentes, Inès et Mia. Mia qu'on peut voir comme un double de Laïla Slimani.
Qui prend le récit en main.
Qui prend le récit en main, qui devient elle-même...
C'est la première personne.
C'est ça. Le prologue s'ouvre en fait sur Mia, qui est également écrivaine. Et malgré son titre incandescent, J'emporterai le feu, c'est peut-être aussi le tome le plus sombre, le plus âpre de la trilogie, parce qu'il est, marqué par la crise économique au Maroc, par la montée de la répression, la montée de l'islamisme aussi. On sent le poids de la religion de plus en plus important, présent dans la vie quotidienne. Et puis vraiment, ce qui est au cœur de ce livre, mais c'est vraiment le projet de départ de Laïla Slimani, je pense, avec cette trilogie, c'est la question, tu disais, la question de l'identité, mais aussi la question de l'altérité, c'est le pays des autres. Et la question aussi qui court tout au long de ce volume-là, c'est celle de l'arabité, comment on se construit arabe, comment on prend conscience qu'on est arabe. Et ces deux jeunes filles, Inès et Mia...
on est regardé aussi.
Exactement, c'est par le regard de l'autre. Donc là, il y a quelque chose de presque sartrien, où on pense aussi à Chimamanda Ngozi Adichie dans Americana, où l'héroïne nigériane comprend qu'elle est noire quand elle arrive aux États-Unis. Là, c'est pareil pour Mia et Inès, elles comprennent qu'elles sont arabes quand elles arrivent en France, qu'on porte un regard, quand l'autre porte un regard sur elles, alors que finalement, au Maroc, elles étaient dans leur bulle surprotégée de l'élite marocaine, ne parlant que très peu l'arabe, ne connaissant pas la culture et ne connaissant que la culture du pays des autres. Donc il est un tout petit peu moins romanesque par moment que les deux autres volumes, mais c'est quand même, ça vient clore la trilogie en beauté.
Alors dans mon souvenir d'auditrice du Masque, Arnaud, tu n'avais pas été très convaincue par les deux premiers volets de cette trilogie. Qu'est-ce que tu penses du troisième ?
Mais en fait, j'ai toujours été étonné par ce projet. Moi, j'avais beaucoup aimé les précédents romans de Laïla Slimani, c'est des choses qui décrivaient le présent. Là, en fait, ce qui me gêne tout de suite, c'est le passé simple. On a l'impression, quand on lit ça, cette écriture au passé simple, qui d'ailleurs, évidemment, est mal nommée, puisque le passé précisément n'est pas simple, et c'est bien ce qu'elle veut raconter. Mais il y a ce thème de l'identité, mais j'ai du mal à comprendre exactement ce qu'elle entend par ce mot. Au départ, il y a cette histoire donc de son grand-père qui fait la Seconde Guerre mondiale et qui, à Strasbourg, rencontre une Alsacienne qui l'épouse et qui l'emmène au Maroc.
Ça, c'était le premier volet.
Ouais. Ah oui, mais c'est très intéressant, cette histoire, parce qu'on a découvert depuis, parce que Laïla Slimani est devenue célèbre, donc beaucoup de gens ont enquêté, entre guillemets, sur sa vie, que ce grand-père, a priori, ne serait pas marocain, mais algérien. Et vous voyez, tout de suite, ça change complètement le sens de l'histoire, puisque ça commence par un match de foot, en fait, le roman. C'est un match Maroc-Algérie. Évidemment, tout le monde dans le roman est du côté des Marocains. Le foot est extrêmement important dans le roman. Il y a le mondial de 98, et puis ça se termine sur la demi-finale France-Maroc. Et là, il y a cette image très intéressante, c'est que les deux petites filles qui sont donc franco-marocaines, qui assistent au match avec leurs parents, ont sur les joues peint d'un côté le drapeau français, de l'autre côté le drapeau marocain. Je veux dire, le foot, c'est toujours le nationalisme expliqué aux enfants. Et puis, alors, si vous voulez, le projet littéraire, c'est du Pagnol, hein. C'est la gloire de mon père, le château de ma mère, le temps des secrets. Dans ce troisième, contrairement à toi, c'est peut-être celui que je préfère des trois, il y a les trois. Il y a la gloire de mon père, donc il va aller en prison, ça c'est vrai, le père de Léa Slimani est réellement allé
En prison. Mais après, le propre du roman, c'est d'inventer aussi.
On ne savait pas si c'était un projet autobiographique.
Bah, c'est
dans les deux premiers tomes. Là, on découvre que c'est une véritable autofiction. Léa Slimani n'a pas deux sœurs. Elle a deux sœurs et non pas une seule. Sa mère
non,
n'est
mais
pas.
Tu ne vas pas nous faire les frères Goncourt.
Mais c'est intéressant parce que elle n'a pas été trader comme notre personnage.
Elle n'est pas lesbienne.
En même temps, par exemple, sa mère, en réalité, elle est ORL. Elle en fait une gynécologue. Mais on sait, par exemple, que le combat de Léa Slimani pour lutter contre, pour dépénaliser l'avortement au Maroc est important. De la même manière, dans le temps des secrets, elle révèle, je ne sais pas si c'est vrai, qu'elle est devenue les homosexuelle, en fait, une espèce de coming out dans le livre. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas, et d'ailleurs, grand bien lui fasse.
Mais encore
c'est
une
vachement
fois.
Intéressant par rapport au roman.
Non, mais.
On s'en fiche.
Le projet, là, soudainement, je vois que ce n'est pas une autobiographie, c'est une autofiction avec une pensée de l'identité qui est soit l'identité sexuelle, soit l'identité. identité nationale, qui me semble une mauvaise pensée de l'identité. Oui, on va en voir tout à l'heure une bonne avec Nathalie Azoulay, par exemple.
Non, mais c'est une façon de dire qu'aucune identité n'est monolithique. Et quand tu dis justement c'est compliqué, c'est parce qu'aucun être n'est figé dans une définition. Et là, tu le démontres toi-même parfaitement.
Et qu'on peut abriter plusieurs récits.
Oui, bien sûr, mais en même temps, encore une fois, quand même, il y a un rattachement avec cette idée qu'il y a de l'identité.
Cette identité permet d'abriter plusieurs récits. Patricia.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Elisabeth. C'est un livre qui coche vraiment beaucoup de cases et mon point de vue est plutôt positif. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai envie, elle a vraiment du talent, cette fille, elle écrit divinement bien. Je voudrais qu'elle fasse plus marcher peut-être son imagination, qu'elle nous écrive un roman sur autre chose que ça. Tu vois, qu'elle sorte de ça. Elle en a parfaitement la possibilité, je pense, qu'elle écrive un truc complet.
Parce qu'en même temps, c'est très très foisonnant. Je veux dire, il y a énormément de personnages qui sont extrêmement romanesques, comme de la Sande, Selma, qui est formidable.
Mais puis tu parlais des matchs de foot, le premier match de foot, mais il est hallucinant, avec les mecs qui se bourrent la gueule et évidemment la femme qui l'accouchement est en train d'accoucher pendant ce temps-là.
Et maintenant, vous allez entendre la voix de Laurent Chalumeau.
D'abord, si je veux.
Non, mais je le veux pour ma part.
Je ne sais pas si Leïla Slimani a l'ambition de devenir une grande autrice de romans populaires. L'avoir publiée sous les ors surfaits de la collection Blanche laisse entendre qu'elle a d'autres ambitions. Mais en tout cas, elle pourrait. Parce que dans le genre grande saga familiale, je trouve ce troisième volet épatamment réussi. On peut tout à fait le dire d'ailleurs sans avoir lu les deux précédents.
Oui, absolument.
Mon cas. Il y a une qualité, déjà, c'est qu'elle parle de ce qu'elle connaît, à savoir, alors je mets des guillemets, les élites occidentalisées. Après tout, pourquoi pas, il n'y a pas que les pauvres dans la vie non plus. Et là, on a envie de dire que sa narration affiche bon pied, bon œil. Bon pied, parce que la foulée est ample, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de faiblesse du genou, et bon œil parce que on se sent en adhésion avec le regard qu'elle promène sur son petit univers, c'est-à-dire qu'elle est contre le racisme, contre l'intégrisme, pour la tolérance vis-à-vis des minorités sexuelles. Elle égratigne un petit peu la monarchie, mais pas trop, parce que don't cheat where you eat, comme dirait l'autre.
Moi, non, ouais. Non, c'est...
Elle y va, quand même.
Oui, c'est clair.
Très bien. Je vous laisse le point, mais je n'en pense pas moins. L'un dans l'autre, ça se lit très, très agréablement. Je trouve que les dernières pages sont particulièrement réussies. Toute blague à part, je trouve qu'elles sont moins immédiatement narratives que le roman qui précède. Et c'est comme si l'autrice, sentant les dernières lignes de la punition approchée, s'autorisait un petit peu de littérature qu'elle avait réprimée jusque-là. Donc franchement, elle mérite de s'accorder ça parce qu'elle nous a donné beaucoup de plaisir avant. Le Maroc est une destination très prisée par toutes les couches de la société française. Je trouve que là, le découvrir même avec les yeux des privilégiés et heureux du monde, bah ça donne un peu de contexte au tourisme, sexuel ou non, et ça ne peut pas nuire de savoir où on va.
Il n'y a pas de faiblesse du genou, as-tu dit. J'emporterai le feu de Leïla Slimani est publié chez Gallimard. Le roman dont on va débattre à présent est signé Nathalie Azoulay, qui avait reçu le prix Médicis il y a 10 ans pile, pour Titus n'aimait pas Bérénice, et en cette rentrée, Nathalie Azoulay publie Toutes les vies de Théo chez POL. Théo et Léa se rencontrent dans un stand de tir et tombent amoureux quasiment arme au poing. Théo est breton, d'origine allemande par sa mère, qu'il a élevé dans la culpabilité de la Shoah. Léa est juive et à l'annonce de son mariage avec Théo, sa sœur déclare au futur mari « J'adore les hommes qui épousent des juives, ce sont eux les vrais mensch. C'est quand même risqué, voire insensé, d'aimer les ennuis à ce point. » Théo et Léa ont une enfant et leur couple vacille à mesure que la judéité prend de plus en plus de place dans la vie de Léa. Leur histoire se disloque avec les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Face au repli et à l'intégrisme religieux de sa femme, Théo s'éloigne et tombe amoureux d'une jeune plasticienne arabe. La guerre qui oppose Israël et le Hamas, la judéité, l'antisémitisme, Nathalie Azoulay écrit sur des sujets contemporains hautement inflammables, sans se refuser l'humour et des variations autour des paroles de la chanson des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Arnaud.
Bon, on peut dire que c'est le premier roman sur le 7 octobre. On peut être tout à fait certain qu'il y en aura d'autres, mais alors il faut les prévenir. C'est que Nathalie Azoulay a mis la barre tout de suite très très haut. Pourquoi ? Bah parce que elle écrit un roman drôle. Ça, je veux dire, c'est
ce qui vu le sujet est un tour de force.
Mais oui, c'est un tour de force.
En vaudeville.
Et voilà, s'il y a bien une chose qui manque au livre de Lila Slimani, c'est de ne pas être drôle. Celui-ci est d'une drôlerie énorme et en plus a un propos sur l'identité que moi je trouve génial. Il y a plein de personnages là aussi, mais ils sont tous très bien dessinés. Le personnage principal, c'est quand même Théo. Théo, il est...
D'où le titre.
Oui.
Toute
voilà.
La vie de Théo.
Et donc,
c'est pour ça que tu l'as lu deux fois, parce que tu n'avais pas compris que c'était Théo le personnage principal à la première lecture.
Non, mais je veux dire que la romancière, l'immense romancière qui est Nathalie Azoulay, finalement, joue du côté de Théo. Donc, il tombe amoureux et c'est une très belle histoire d'amour entre eux. C'est ça qui est fort, c'est que c'est une très belle histoire d'amour qui commence dans un stand de tir.
Oui,
la scène
évidemment.
Est géniale.
Et l'hôpital où la couche est à quelques,
voilà.
est à quelques mètres.
Et puis, il fête ses 50 ans le 7 octobre de 2023, le pauvre. Et donc, la fête est annulée. Et à partir de là, il se passe quelque chose qui est très beau et là, vous voyez, on parlait du passé simple tout à l'heure, mais c'est écrit au présent. On a l'impression que ce livre, il s'écrit en même temps que nous vivons. Je veux dire, nous avons vécu ce moment du 7 octobre en France, dans ce monde-là qui est représenté, qui est aussi le monde de la culture. C'est un grand livre sur la culture, et elle l'utilise très très bien. Il y a des idées comme ça magnifiques. Léa télécharge l'application des alertes à la bombe en Israël, c'est bien qu'ils sont réveillés la nuit à Paris par les alertes israéliennes. Toutes ces idées sont très belles. Et puis après, il y a l'autre grand personnage, Maya, qui va rencontrer Libanaise. Et là, il y a une satire de l'orientalisme tel que Edouard Saïd a pu le développer, montrer comment on a tous les clichés orientalistes. Et là, c'est vraiment une très grande romancière qui raconte cette histoire.
Et il faut que tu laisses la parole aux collègues. Laurent, qu'en as-tu pensé ?
Alors, je voudrais juste ajouter quelque chose à ce qu'a dit Arnaud. Ça n'est pas le premier roman... Non. Sur le 7 octobre, il y a quelqu'un qui a dégainé beaucoup plus vite, c'est Johann Sfar, qui a produit quelque chose, d'à mon sens, beaucoup plus convaincant et de beaucoup moins problématique. Je ne mets aucune satisfaction et aucune espièglerie dans le fait d'être presque symétriquement en désaccord avec Arnaud. Mais je ne suis pas en désaccord avec Arnaud, simplement, je n'ai pas réussi à lire le même livre et je suis enclin d'ordinaire à considérer que ce sont ceux et celles qui aiment qui ont raison. Ce qui voudrait dire que je vais avoir tort dans ce que je vais dire.
Mais vas-y.
Ce que je trouve de plus gentil à dire à propos de ce texte, c'est qu'il me fait l'effet d'être techniquement raté.
Oh. Car c'est tout l'inverse.
Car s'en tenir à la technique, ça me permet de ne pas évoquer tout ce qui se faufile d'éventuellement problématique, à mon sens, dans la posture de surplomb affligé, très commode, qu'adopte l'autrice vis-à-vis de son sujet. Je trouve que le texte est techniquement raté, car ça base sur lui la malédiction qui pèse sur tous les romans à thèse. Les personnages que toi, tu as trouvés merveilleusement dessinés, et je t'envie, moi, me font l'effet de ne pas en être, parce que l'autrice ne leur en laisse pas la possibilité. Ce ne sont même pas des utilités romanesques, ce sont des accessoires argumentaires. Ils sont réduits aux idées qu'ils sont censés incarner.
Mais elle joue avec ça. Elle joue énormément avec ça.
C'est un jeu qui ne m'a pas diverti. En revanche, j'espère qu'écrire ce livre aura défoulé l'autrice, parce que ça fera au moins une personne, à mon sens, à qui il aura servi à quelque chose. Parce que qu'est-ce qu'on attend
d'un livre ? Non, il y a Arnaud Vivian aussi.
Qu'il divertisse et ou qu'il instruise. Idéalement les deux. Ici, le moins qu'on puisse dire, c'est que moi, donc, ça ne m'a pas diverti. Et alors, il y a un truc qui est sûr et qui, là, est potentiellement plus grave, c'est que je n'en ai rien retiré non plus qui m'aide à supporter l'horreur, à dépasser ma sidération face aux diverses...
C'est comme ça que tu vois la littérature, ça, c'est pour t'aider à supporter les choses, en fait. Tu as la tisane aussi qui est bien.
Alors, le 7 octobre et Gaza apprécieront. Est-ce que tu préfères saveur du soir ou camomille ?
C'est toi qui décides, gars.
Ah ben, c'est toi qui as parlé de tisane le premier.
Oui, non, mais c'est toi qui vois la littérature comme quelque chose qui viendrait te soulager. Enfin bon, si c'était ça, la littérature, franchement, ça ne vaudrait pas le coup. On irait dans une pharmacie, c'est tout. Ce ne serait pas une librairie, ce serait une pharmacie.
Je vais laisser mes camarades boire une petite camomille.
Elisabeth.
Je me demande si tu t'es pas trompée de livre, parce que c'est tellement aux antipodes de tout ce que tu viens de dire. Je veux dire, c'est un livre absolument virtuose, c'est une écriture brillante. Il y a cette vélocité, cette vivacité qui est vraiment propre à l'écriture de Nathalie Azoulay. C'est un livre extrêmement casse-gueule. Je vais écrire une comédie à partir des sujets les plus lourds qui soient. La judéité, l'antisémitisme, le conflit israélo-palestinien. Et j'en fais une comédie un peu à la Claude Sautet. Elle est en permanence sur le fil, tout en menant ça tambour battant, ce qui est déjà absolument épatant. Et même, elle ose avoir recours aux plus grosses ficelles. Toi, tu disais, ce sont des utilités, Laurent, les personnages. Mais justement, elle n'a pas peur de jouer de l'outrance. Effectivement, Théo épouse une femme juive, puis prend pour amante une maîtresse, une femme arabe libanaise. Leur fille, Noémie, se convertit au catholicisme. Donc tout ça est énorme. Mais ça fait partie du plaisir de lecture. Et pour autant, Nathalie Azoulay ne cède jamais à la facilité, jamais, puisqu'elle n'émet aucun jugement définitif sur les situations. Elle agit constamment en romancière, en pure romancière. Elle fait confiance à ses personnages et surtout, avant toute chose, à son écriture, qui est absolument brillante. Non, c'est, je pense, une des meilleures réponses, au contraire, aux passions tristes de l'époque, ce livre.
Patricia, pour terminer, il va falloir qu'on accélère un peu.
Une virtuose de l'écriture, je trouve qu'il y a une grâce, il y a du rythme, des phrases qui sont très courtes, les prénoms même claquent au vent. Théo, Léa, Dan, Maya, enfin, ce n'est que ça. Quand tu parlais d'outrance, mais elle s'autorise, je dirais, une ironie bienveillante vis-à-vis des communautés et elle néglige pas les tropismes inévitables, l'impossibilité de pénétrer dans le monde de l'autre, et c'est ce que passe Théo. Théo passe son temps à faire ça. Moi, je trouve que
c'est aussi un roman sur l'altérité, précisément.
C'est un roman sur l'altérité. Elle écrit merveilleusement bien sur le couple aussi. Cette espèce de dislocation du couple, bon, qui est due à cette raison-là, c'est extraordinaire. Cette espèce de loupe-là qu'elle pose sur des gens qui se disloquent, sur aussi comment se construit son identité, parce que leur fille se construit finalement contre sa mère, on peut dire. Non, moi, je trouve que c'est inventif. Et puis, c'est franchement courageux. Ouais. Je veux dire, pardonnez-moi, si j'étais vulgaire, je dirais qu'il faut en avoir pour écrire ça. Chapeau.
Toutes les vies de Théo, de Nathalie Azoulay, est publiée chez POL. On continue sans tisane avec la seconde saga familiale de ce programme. Je veux parler d'un avenir radieux, suite très attendue de la série romanesque de Pierre Lemaître. Pour rappel, ce roman s'inscrit dans une grande fresque en 10 volumes que Lemaître consacre à la France du XXe siècle. Il y eut d'abord la trilogie dédiée à l'entre-deux-guerres et inaugurée avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013. Et depuis 3 ans, Lemaître a commencé un cycle consacré aux 30 glorieuses. Un avenir radieux, dont on va parler maintenant, en est le 3e volet. Nous retrouvons la famille Pelletier. Si vous ne la connaissez pas, aucune inquiétude. Pierre Lemaître resitue chacun et chacune jusqu'au chat Joseph, dès le premier chapitre, très habile, en rassemblant tout le monde dans la maison des grands-parents. Et Lemaître poursuit son feuilleton familial, en même temps qu'il déploie un roman d'espionnage qui rend hommage à John le Carré. Nous sommes en 1959, en pleine guerre froide, sur fond de menace nucléaire. François, l'un des fils Pelletier, est journaliste pour la télévision et il est contacté par les services secrets français. On lui demande de participer au sauvetage d'un espion tchèque à ses risques et périls. Comme d'habitude, Pierre Lemaître cite ses nombreuses sources à la fin du livre et dans ses remerciements figurent côte à côte Victor Hugo, Henry James, José Arthur ou Macha Béranger. Patricia.
Ah bah Macha Béranger, oui, il peut la remercier puisqu'il y a une émission.
L'une des héroïnes présente une des héroïnes de radio nocturne.
C'était un autre temps aussi où, à mon avis, quand même, elle n'avait pas de remontrance ou presque de menace de la part de la direction en lui disant attention, tu parles pas de tel truc parce que ça se fait pas. Non, moi je suis une inconditionnelle de Pierre Lemaître. Je trouve qu'il y a quelque chose de tellement généreux dans son écriture. C'est super bien tricoté. Cette famille qui est un clan en fait où il y a des jalousies, des antagonismes, mais aussi une grande fraternité. Dans des moments, enfin quand ça va mal, on se retrouve en tête de gondole. Moi, je mettrais quand même Jean, qui est à la fois inquiétant, qui est un peu benêt. On peut quand même toujours se demander ce qu'il peut faire.
Et plein de surprises.
Et voilà, Geneviève, sa femme, alors oignon, qui voit tout à travers Astéria, parce qu'elle croit
à l'astrologie.
Donc bon. Et puis alors en Bigoudi et en Nuisette, c'est un poème. Et puis alors, c'est là où c'est des registres quand même très très différents, c'est que leurs enfants, par exemple, alors c'est tout à fait différent. La petite Colette, c'est une petite fille, hein, elle a 11 ans, elle vit des choses absolument atroces, et elle a une sorte de... Elle est vaillante, elle est courageuse. Moi, je l'ai trouvée infiniment émouvante, et on est vraiment immergés auprès de ces gens. Et puis, il y a tout le côté art du suspense, roman noir. aussi les espions, le Georges Chastenay là, et les autres, qui tombent quand même de leur piédestal, parce que comme il l'écrit à un moment donné, le fantasme de l'espionnage aventureux est mis à mal, et puis les petits patrons qui sont plus vrais que nature, les réunions des petits patrons qui se poussent du col pour enfoncer les portes ouvertes, merci Pierre Lemaître, franchement.
Est-ce que tu t'es immergé, toi, Laurent ?
Alors, oui et non. Oui et non.
Alors, dit-il pour prendre son
nom. Non, c'est effectivement, il y a un clin d'œil à John le Carré, aussi à Charles Ex-Braya, pour celles et ceux à qui cette référence dirait quelque chose. Mais l'une des caractéristiques de Pierre Lemaître, et l'un de ses réels talents, c'est de savoir traiter de sujets gravissimes, voire horribles, avec légèreté, en accueillant de la fantaisie, voire du merveilleux ou de l'invraisemblable. J'ai failli reposer ce livre au bout de 30 pages, et je vais vous dire pourquoi.
Mais qu'est-ce qui t'arrive ?
Dieu merci, j'étais obligé de le finir, et arrivé au bout, je me suis dit qu'effectivement c'est un bon livre, bien exécuté, et que j'ai lu sans déplaisir. À l'exception d'une scène qui vraiment me pose problème. Il y a une scène où donc cette petite fille, prénommée Colette, qui pourrait s'appeler Cosette d'ailleurs, vu les avanies qui lui sont réservées, tombe entre les griffes d'un méchant voisin. La scène est censée nous faire peur, nous montrer que cette petite fille va vivre quelque chose d'une extrême pénibilité qui va conditionner ses comportements ensuite. La scène dure, à mon sens, un peu trop longtemps. Et c'est purement le caprice de Pierre Lemaître qui l'a fait durer un peu trop longtemps. La fonction qu'elle remplit...
Cette petite fille se fait agresser.
Et pour...
Elle se fait agresser sexuellement.
Voilà, et pour dire les choses, on aurait compris qu'elle a eu très peur, et on aurait eu très peur avec elle si la cavalerie arrivait juste avant que l'agression n'aille aussi loin qu'elle va. Une bite d'adulte dans la bouche d'une enfant,
pour
un texte qui se veut divertissant, je trouve que ça gâche un peu l'ambiance en soirée.
C'est pas un moment divertissant, c'est effectivement pas comme ça qu'il l'écrit.
Il joue sur plein de registres.
Et
quand sa mère lui coupe les cheveux à la petite Colette, je suis désolée, c'est pas divertissant non plus.
Donc cette scène est pleinement justifiée.
Moi, elle m'a pas choquée parce qu'elle est écrite. Il emploie pas le mot que tu as employé.
Oui, certes. Parfois, il faut dire Paris, parfois capitale de la France, parfois pantruche, parfois lutèce. À la fin de la journée, c'est quand même une bite d'adulte dans une bouche d'enfant.
Oui, mais la littérature, c'est justement de trouver les mots pour dire ça. Donc, c'est en l'occurrence, c'est pas ce qu'il fait. Après, je peux comprendre pour autant, que cette scène suscite un réel malaise et que ce soit très dur et peut-être qu'elle dure un peu trop longtemps. On n'est pas chez Faulkner comme dans Sanctuaire où tout est suggéré, c'est autre chose. Pour autant, franchement, Pierre Lemaître, mais c'est vraiment l'art d'élever le feuilleton populaire, mais vraiment à un niveau, on est vraiment du côté de Dumas, de Victor Hugo, beaucoup plus que de Plus belle la vie. On tremble, on vibre, on frémit, c'est absolument... Enfin, moi, je retrouve des émotions que je ressens à la lecture des Misérables, mais vraiment. Et en plus, il y a quand même toujours un propos politique aussi chez Lemaître. Il sait tout allier. C'est-à-dire que c'est pas purement du roman d'espionnage, c'est pas purement du divertissement. Il y a aussi une dimension politique. Et là, le titre, c'est une antiphrase. Un avenir radieux, on est en pleine glorieuse. En fait, ce que Lemaître réussit extrêmement bien à montrer aussi...
C'est la désillusion face au progrès.
Oui, et c'est surtout les germes de l'avenir monstrueux que nous réservent ces années de surproduction, de surconsommation, de surcroissance, où il y a le nucléaire déjà, les pesticides. On sent très bien la catastrophe écologique. Elle est là, en germe, pendant ces années-là. Et ça, Lemaître, il le montre extrêmement finement. Et puis, c'est tard de camper les personnages. Enfin, Patricia en a parlé. Je veux dire, le personnage de Geneviève est absolument monstrueux. Celui de Jean, pareil. Il est à la fois épouvantable, effroyable et en même temps totalement pitoyable. Donc non, c'est vraiment, moi je trouve que Lemaître est grand.
Arnaud.
Mais je suis d'accord. Les grands romanciers, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, en fait. Et là, effectivement, Lemaître, il ose tout, et ce premier chapitre est quand même absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il arrive à tresser deux sujets extrêmement actuels, mais qui n'ont strictement rien à voir, à savoir les pesticides, Dieu sait s'il en est question en ce moment, et les violences sexuelles sur mineurs. Et à travers ça, il fabrique son premier chapitre. C'est déjà en soi, on se dit, mais
tout en resituant chacun des personnages,
resituant
pour tous ceux qui
chacun
n'ont pas lu
personnages,
les premiers,
etc.
Les précédents volets.
Alors des fois, il y va fort. Hein. Il dit, par exemple, page 228, je note, en parlant de ces personnages, il dit ces personnages balzaciens sans le savoir. Oui. Faut y aller quand même.
Oui, mais sans ça, ça fait penser à Victor Hugo.
J'écris comme Balzac, voilà.
Oui, mais...
et les références à Victor Hugo, à ce mot Jean crut mourir, car il faut bien le confesser au lecteur, Jean était le meurtrier.
Mais, oui, mais Hugo, il fait des choses comme ça dans les
Misérables. Évidemment que Hugo fait des choses comme ça, donc il reprend ces trucs, c'est vraiment une espèce de prestidigitateur qui va dans la boîte à outils du roman, alors on peut dire populaire, il y a un côté Ponson du Terrail, avec la prostituée d'État qui va mourir, enfin bon, des choses énormes, dès qu'il peut, il fait un truc énorme, et ces personnages, alors je veux dire, ils sont tous
le chat,
il est totalement psychotique, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, l'autre elle est Geneviève, elle est extrêmement méchante, on ne sait pas pourquoi, il n'y a aucun ressort psychologique, il y a une espèce de plaisir pur de la narration, bon, quand même.
Un avenir radieux de Pierre Lemaître est publié chez Kalman Lévy. On continue avec le premier roman de Jeanne Rivière, intitulé Lorraine brûle, un titre donc inspiré d'un tatouage d'une des amies de l'autrice. Et les amies de la narratrice sont nombreuses, indépendantes, amatrices pour certaines de BDSM, sadomasochisme comme on disait au XXe siècle. Le BDSM et le désir étant l'un des motifs du livre. C'est aussi un roman qui fait vivre la marge. La narratrice est elle-même batteuse dans des groupes punk qui portent les noms de Salo, S-A-L-O, catacombe ou tranchée. Elle a la quarantaine, vit seule avec son enfant et travaille comme secrétaire dans un établissement scolaire. La maladie et la mort planent sur le roman, dont je vous lis les premières lignes. « Je suis née à Metz en même temps que le sida et l'arrivée de la gauche au pouvoir. Les années 90 ont laissé leur empreinte sur moi. J'aime danser des slows et rouler des pelles. Je fais de la batterie dans des groupes plutôt punk. Je prends le train pour aller travailler au bureau 48 et m'occupe de mon enfant. » Laurent.
Eh ben, j'ai envie de dire « enfin ». Comme quoi, c'est possible. Quand c'est bien, il faut le dire, et là, c'est vachement bien.
Tu esquisses même un sourire.
On tourne les pages et on sent qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Quoi. C'est un premier roman énervé, qui est extrêmement réussi dans son genre, car le premier roman énervé en est un. Celui-ci m'a fait l'effet d'être vraiment impeccable. Il est tenu, il est tendu, il nage droit de bout en bout. Il y a des astuces de reproduction de l'oralité qui sont d'un dynamisme que je trouve extraordinaire. Il y a aussi des pages qui sont tout bonnement des poèmes en prose de Bukowski. Il y a de la rage, il y a de l'émotion pudique, cachée sous de l'ordurerie et des grossièretés. Il y a de l'humour, enfin bon, c'est épatant. La définition de l'éloquence, paraît-il, c'est de savoir décrire Dolly Parton sans se servir de ses mains. L'un des défis lancés aux critiques par ce livre, c'est de savoir en parler sans céder à la tentation d'évoquer une autre Lorraine.
Ah oui.
Une Lorraine dont le premier roman avait fait bien du destroy dans le magasin de porcelaine il y a 30 ans. On ne le fera pas, mais putain, c'est tentant. Après un tel début, le syndrome du deuxième album risque d'être...
Citons-la, cette Lorraine.
Tout le monde l'aura reconnu, donc surtout, ne portons pas la poisse
à Jeanne Rivière.
Prénom Virginie.
En lui accordant un moins bon deuxième roman, je suis d'ores et déjà impatient de lire le troisième.
Est-ce que tu es aussi enthousiaste, Arnaud?
Ouais.
Allez, prends ta tisane.
Alors,
prends ta
tisane. Bon, vous savez qu'il nous reste très peu d'élégance. Il y a quand même un principe qui est de ne pas dire de mal des premiers livres. Donc,
Laurent vient d'en dire beaucoup.
Moi, il y a beaucoup d'ingrédients pour me plaire. Le BDSM, il est même question, rendez-vous compte, de l'expo Lacan au centre Pompidou-Metz avec les photos de Pierre Molinier. Donc là, je suis ravi.
Mais elle ne dit pas du bien du centre Pompidou.
Plus du punk, normalement, franchement. Et c'est
tous les éléments vivantesques sont réunis.
Le problème, c'est que c'est pas assez cuit pour moi.
c'est trop cuit.
J'ai envie de le renvoyer en cuisine en disant ça manque un petit peu de cuisson encore. D'abord, c'est pas un roman, ce sont des espèces de vignettes panini sur la Lorraine d'aujourd'hui.
La
Lorraine. D'accord, ce qui est intéressant avec la Lorraine, c'est qu'on a un panorama littéraire qui commence à être intéressant. Donc on a Virginie Despentes, évidemment, mais on a Nicolas Mathieu. Et là, on n'est pas du tout dans la Lorraine de Nicolas Mathieu. Et ça pourrait être vraiment intéressant. Mais, encore une fois, moi, je trouve, si vous voulez, d'abord, tous ces petits textes se terminent par des allusions sur la piscine ou à l'eau d'une manière ou d'une autre.
C'est une trouvaille. Philippe.
À part pour faire plaisir à Elisabeth Philippe.
Mais oui,
bah non, bah justement, ça n'a pas fonctionné.
Alors, au en contraire. Plus, sur toi, ça ne fonctionne pas, parce que c'est pour clouter d'une manière, comment dire, artificielle, tous ces petits textes. Moi, je vais vous dire, et je ne veux pas être offensant par rapport à ces structures, mais ça m'a fait penser à la meilleure élève de l'atelier d'écriture qui a rendu son livre, quoi.
Oh. Voilà. Non, je ne sais pas ce qui se passe, je suis constamment d'accord avec Arnaud ce soir, c'est très inquiétant. Et je vais peut-être pas être très élégante, parce qu'en fait, ce qu'on attend dans un premier roman, surtout, c'est de découvrir une nouvelle voie. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle cochait toutes les cases du super bingo. Donc, on a la Lorraine comme Nicolas Mathieu et Virginie Despentes, paf, coché.
Oui, mais enfin, on ne choisit pas d'être Lorraine.
Non, mais d'en faire le décor. Non, mais ça, c'est la première case. Attends, c'est le super bingo, Rebecca. Côté un peu transfuge de classe aussi, parce que ça ne fait jamais de mal. Et puis, bien sûr, la natation, parce que comme Constance Debray. Mais au final, ça ne donne pas quelque chose de très original. Cette oralité que tu saluais, Laurent, bah, moi, je n'y ai pas du tout été sensible. Si ça passe que par l'élision des négations, et puis écrire pi au lieu de et puis, bon, est-ce que ça fait un style ? J'en suis pas complètement convaincue. Mais c'est dommage, parce que cette volonté de faire le portrait de la marge de la marge, c'est-à-dire des personnes queer, des personnes précaires, et tout ça dans une région qui n'est pas Paris, et ça change, et c'est très bien. On a envie de lire ça, mais j'ai aussi envie de le lire dans une voie qui soit vraiment nouvelle, surtout quand c'est un premier roman.
Patricia, une voie nouvelle pour toi ?
Je suis d'accord avec Laurent, c'est épatant. Moi, j'ai adoré ce bouquin.
Faut toujours que tu gâches tout.
J'ai trouvé ça absolument formidable. Il y a une énergie, une lucidité, une acuité intense, un art de la concision absolument sidérant. On a l'impression que c'est une femme pressée.
Je change mon vote.
Elle n'a pas le temps de s'épancher, de se répandre. Ça me fait penser à la nana qui file un coup de pied dans la porte parce qu'elle a les bras chargés de paquets. Et en même temps, j'ai été très étonnée parce que je l'ai entendue interviewée par Mathilde Serrel il n'y a pas très longtemps, sur France Inter. Donc, elle était super calme. Alors qu'elle fait très... Enfin, sa narratrice semble très énervée. Mais je trouve que sur, effectivement, comment la pauvreté abîme les corps aussi. On meurt très jeune. Qu'est-ce qu'on met
On nage pour ne pas couler.
Qu'est-ce qu'on met dans son assiette ? Où est-ce qu'on va faire ses courses ? Comment on s'habille ? Quand l'usine Bata a foutu le camp et qu'il y a les trois quarts des gens qui sont au chômage. Moi, ça me touche, ça me plaît.
Lorraine Brûle de Jeanne Rivière est parue dans la collection Signes de Gallimard. Pas l'ombre d'un groupe punk, mais une once de sadomasochisme dans le nouveau roman de l'autrice italienne Milena Agus, qui s'est fait connaître en 2007 avec le grand succès de Mal de Pierre, que Nicole Garcia avait adapté au cinéma. Comme souvent avec Milena Agus, nous sommes en Sardaigne, dans un village où la narratrice, la jeune Cosima, vit avec son petit frère muet, son père qui est peintre et sa mère pour qui sa famille est, je cite, « l'emblème de la misère ». C'est elle, cette mère, qui décide d'un déménagement dans la capitale sarde, Cagliari. Mais Cosima revient régulièrement dans son village, d'autant que Costantino, un berger mélomane, occupe de plus en plus son esprit. Cosima est une grande lectrice qui, je cite, littérature, du verbe littératurer. Cosima littérature la vie. Et Milena Agus de convoquer beaucoup d'auteurs de Tolstoï, Hemingway, en passant par Alessandro Manzoni. Et je vous précise enfin le titre de ce roman sur lequel il va falloir faire court. Hein. Le vent passe et la nuit aussi. Arnaud.
Alors, donc c'est un livre sur un verbe, hein, c'est littératurer. En français, c'est moche. Peut-être qu'en italien, c'est pas mal.
Tout
mais,
passe mieux.
Parce que je littérature, je me souviens que Claude Simon faisait la blague à Rob Grier, hein, je littérature. Alors, y a quand même, on pourrait trouver mieux, hein, par exemple, le verbe littéradier, je littéradie. Pas mal,
pourquoi
je littéradie.
Oui. Non Arnaud Vivian, psychanalyste.
Voilà. Ou bien le verbe littératager.
Non, mais si tu nous parlais du bouquin.
Il y avait quand même d'autres trucs que je littérature.
Donc, qu'en as-tu pensé ?
Du livre.
Mais oui. On est là pour ça. On n'est pas là pour parler radis.
Je savais qu'on en était au verbe littérature. C'est toujours pareil. D'ailleurs, il y a ça aussi un petit peu chez Leïla Slimani.
Parle de Milena Agus.
Non, mais c'est parce que c'est un récit.
Recentre-toi.
C'est un récit de sublimation de la fonction d'écrivain sur le thème « J'étais prédestiné ». C'est cette sublimation de la prédestination d'un être écrivain écrivains que Jean-Paul Sartre avait totalement démonté magnifiquement dans Les mots. C'est un livre pour expliquer qu'elle est écrivaine. Mais ça n'a aucun sens. C'est une tautologie.
Elisabeth.
Non, moi, je me disais, en fait, j'aurais dû boire un petit verre de vinaigre avant de lire ce livre. Parce que vous savez que c'est la façon d'éviter les pics glycémiques selon l'autoproclamé glucose goddess. Parce que qu'est-ce que c'est mielleux, sucré, c'est mièvre. C'est, et d'ailleurs, un des amoureux, El Señorito, de la narratrice de Cosima, lui dit mais arrête avec ta littérature, là, juste. Enfin. Ta façon de littératurer, pardon, je vais avoir un diabète du cerveau. Bah, c'est exactement ce qui se passe pour le lecteur de ce livre. C'est à la fois du bovarisme à la sauce sarde et puis Marx chez les bisounours. Parce que El Señorito, il a vécu
il
a grandi
à Cuba.
Il veut faire la révolution, mais comme dit sa petite copine Cosima, une révolution de gentils. Et voilà, que dire de plus, c'est un mélo, c'est mièvre. Non, ça, c'est... Et quelques scènes BDSM, effectivement, avec le berger, Costantino. Mais un peu ridicule.
C'est vrai. Patricia.
Faut-il que j'y à la rescousse, peut-être un peu tout de même.
Mais de façon courte.
Disons que il vaut peut-être mieux quelquefois prendre le temps d'oublier le précédent qu'elle a écrit pour se plonger dans le nouveau, parce qu'elle écrit quand même, depuis un certain temps, un petit peu quand même toujours la même chose, et cette Sardaigne est extrêmement prégnante dans sa littérature, avec le côté, les traditions, le côté sauvage, etc. Le monde clos, c'est une île, on a envie de fuir. Et elle, Agus, elle a une façon de retenir la vie en écrivant. Elle a quand même des qualités. Je ne suis pas absolument emballée par son personnage, mais il y a quand même la prof, par exemple, la prof de Cosima. Elle est, ah si, moi, je ne l'ai pas détestée. Ces garçons, cette...
Le sac des poètes disparus.
C'est non, convenu, mais... quand même, non
c'est
un peu convenu, quand même.
C'est assez convenu. Ah. Oui, ça fait déjà un peu... Oui, ça fait... On l'a déjà lu, quoi.
Oui. Alors, Laurent, en mieux.
Puisqu'il faut faire court, je vais faire court, mais tu vas regretter de m'y avoir encouragé. Lire Minella m'a fait un peu saigner
Milena,
l'agus.
Milena.
Lire Minella m'a fait un peu saigner l'agus.
Ok, contre Pétri. On peut avoir une autre version? Parce qu'à 10 heures, ça va passer difficilement.
Je croyais qu'il fallait faire court.
Tu peux développer un peu.
Eh bien, je ne vais pas faire mon Guillaume Meurice, mais nous avons un problème, parce que c'est ma position.
D'accord, très bien. Le vent passe, et la nuit aussi, de Milena Agus, est traduit par Marianne Faurober, et le roman est paru chez Liana Lévy. Quels sont les coups de cœur du masque ? Réponse avec un tour de table qui commence avec toi, Arnaud.
Ça s'appelle Marx en Amérique, c'est écrit par Christian Laval. Marx en Amérique, c'est une idée géniale. C'est que Marx, en 1883, n'est pas mort, comme l'indiquent les dictionnaires. Il a, avec son pote très riche, Engels, il a fomenté son départ incognito aux États-Unis. Et pourquoi aux États-Unis ? Pour aller rejoindre une tribu iroquoise. Voilà, parce qu'il veut vivre le communisme vivant avec des Iroquois, qui révolutionne sa pensée. Et en fait, de ce livre génial, c'est une version romancée de ce qu'on appelle le dernier Marx, qu'a effectivement découvert à la fin de sa vie. On est en train de découvrir ses dernières notes. Il a découvert que la nature était exploitée autant que l'homme, sinon plus. Et donc, il y a un tournant écologique dans le dernier Marx, voire même un tournant féministe. Et donc, ce roman raconte ça d'une manière hyper belle, hyper drôle, en imaginant donc que... Alors, Marx s'est fait couper la barbe, et c'est là où vous voyez que c'est un vrai roman, parce que essayez d'imaginer Marx sans barbe, vous allez voir, c'est pas facile. Et en plus, déguisé en Iroquois, pas facile du tout.
Marx en Amérique de Christian Laval, ouais. C'est publié chez Chamballon.
Chamballon.
Elisabeth.
Alors moi, mon coup de cœur, c'est Ravagé de splendeur de Guillaume Lebrun aux éditions Christian Bourgois. Guillaume Lebrun, on l'a découvert avec un premier roman qui s'appelait Fantaisie guerrière, qui était une biographie fantasmée de Jeanne d'Arc où on pouvait, entre autres, apprendre à chanter les chansons de Céline Dion en ancien français. Cette fois, Guillaume Lebrun s'attaque à une autre figure historique, peut-être moins connue, mais qui a déjà été traitée, dont se sont déjà emparés Antonin Artaud et Jean Genet, et qui, à titre personnel, me fascine totalement. Il s'agit d'Hélio Gabale, un empereur romain qui a régné quatre petites années au 3 IIIe siècle de notre ère, ou comme le dit l'auteur, à partir de 1728 avant Cher, donc la chanteuse de Do You Believe. Héliogabale, c'est un empereur qui est venu de Syrie, qui est arrivé au pouvoir évidemment grâce aux machinations de sa mère et de sa grand-mère, et il a transgressé absolument toutes les règles. Il voulait d'abord imposer une autre religion aux Romains, ensuite il a surtout demandé à ce qu'on le genre au féminin. Très vite, il a demandé à ce qu'on le considère comme une impératrice, et il est considéré évidemment comme une icône trans. Et tout ça, c'est vrai. Et aussi, ça malheureusement, Guillaume Lebrun ne l'évoque pas, mais c'est un fait véridique, Héliogabale est l'inventeur du coussin péteur, je vous le jure.
Il a fait progresser incontestablement l'humanité.
Absolument, c'est pas ce qui intéresse Guillaume Lebrun, je vous rassure. Ce qui l'intéresse, c'est le trouble que forme Héliogabale avec une vestale. Il a épousé une vestale alors qu'elles étaient censées rester vierges, et il entretient aussi une relation passionnelle et très sexuelle avec un ancien esclave grec. Et ensemble, ils veulent renverser absolument toutes les règles de l'Empire romain. Et évidemment, ça va très très mal se terminer. Son texte, surtout, il fait résonner cette époque avec la nôtre, en montrant comment, à l'époque d'Héliogabale, certains avaient peur d'être grand remplacé par un jeune homme venu de Syrie et qui avait une autre religion que la leur.
Ravagé de splendeur, de Guillaume Lebrun, c'est chez Bourgois. Laurent.
Mon coup de cœur est vraiment à prendre au sens littéral, car à tous les égards, ici, c'est le cœur qui parle et qui me fait braver le ridicule d'enfoncer une porte ouverte, car tout le monde a déjà lu Normal People de Sally Rooney, sauf moi, jusqu'à ce que l'excellent podcast Liste de lecture me donne envie de le faire. Et cette lecture, pour moi, a été un pur enchantement. C'est l'une des plus belles choses que j'ai lues dans ma vie. Oui, je sais que ça peut navrer, mais c'est une merveilleuse histoire d'amour, de sexe, de jeunesse, mais ça parle aussi au vieillard que je suis en train de devenir. C'est principalement un livre qui montre comment une histoire d'amour peut influencer une vie et comment les gens peuvent vraiment se changer les unes et les uns et les autres. C'est un tour de force stylistique et littéraire. Si on peut le lire en anglais, c'est évidemment formidable, mais avant de le recommander, je suis allé voir la traduction, elle est remarquable, à telle enseigne que je me suis fait avoir à nouveau et que j'ai recommencé à le lire en français. Donc, Normal People de Sally Rooney.
Qui est paru en livre de poche.
C'était l'idée.
À toi, Patricia.
Une biographie passionnante sur un sacré mec, hein, c'est Jean-Patrick Manchet. Écrire contre, c'est chez Gallimard. C'est signé Nicolas Leflaeg.
Manchette.
J'ai dit Manchet ? Non, ouais. Manchette.
Ouais, allons-y,
mais Jean-Patrick Manchet. Je sais que tu, Arnaud, tu l'aimes.
C'est pas grave, dis ce que tu veux.
Non, c'est Manchette disons que c'est grosso modo qu'il a réinventé le polar. On a parlé de néo-polar à son sujet. Et je peux vous dire que cette biographie vous donnera une furieuse envie de le lire, lui, mais de lire aussi Chandler, Westlake, Marx, dont tu parlais tout à l'heure, Flaubert, Perec, Debord. C'est foisonnant, c'est merveilleux, c'est reconstituant.
Nicolas Leflaeg, Jean-Patrick Manchette, Écrire contre, et c'est paru chez Gallimard. Je n'ai plus le temps de vous donner mon coup de cœur parce qu'on a largement débordé. Ça concernait
ça, c'est la faute des
Bob Dylan, ce sera comme d'habitude, ce sera pour la prochaine fois. Patricia Martin, Arnaud Vivian, Elisabeth Philippe, Laurent Chalumeau, merci pour vos lectures. Les prochains enregistrements du Masque sont programmés le jeudi 30 janvier. Il sera question de l'actualité du cinéma et de la scène. Giraud réalise Le Masque et la Plume avec Jean-Baptiste Etcheparbord, Antoine Espel, Nadège Antonini et Leslie Horowitz aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco qui coprogramme l'émission et la prépare avec Nina Malray. Ma bande et moi vous donnons rendez-vous dimanche prochain, toujours depuis le théâtre de l'Alliance française, sur France Inter, évidemment.